C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission interactive « À votre avis ». Présenté par Nathalie Barge en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, deux généraux remplacent les gouverneurs des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui ont été placés sous état de siège le 6 mai par le président Félix Tshisekedi pour tenter de mettre fin aux attaques des ADF et autres groupes armés. Et les militaires qui sont en charge dans ces provinces sont d'anciens rebelles. Alors comment soutenir l'effort de guerre et assurer la sécurité dans l'est de la RDC? Pensez-vous que l'état de siège soit la solution? C'est les questions donc qui vous seront posées aujourd'hui, auxquelles vous allez répondre. Nous avons déjà des commentaires sur le Facebook de VO Afrique, notamment celui de Baudelaire Hachou, que nous essayons de joindre, qui est au Bénin. Nous l'avons déjà d'ailleurs. Baudelaire, comment allez-vous?
Bonsoir, madame, je vais très bien.
Alors, vous dites qu'il faut donner à l'armée les moyens, et on vous écoute pour en savoir un petit peu plus sur votre point de vue sur cette situation.
Je pense que, comme je l'ai dit, vous allez savoir que d'abord l'est de la RDC, d'abord c'est une zone qui est en conflit, il y a date vraiment de cela des années. Et toutes les solutions trouvées pour voir, et comment dit-on, pacifier cette zone, c'était vraiment des échecs. Oui, c'était vraiment des échecs. Et si l'État central a pris la décision de confier la gestion de cette zone-là à des généraux, je pense quand même que c'est sûrement que c'est une idée bien mûrie. Et l'État pense quand même que déjà par là, il peut parvenir quand même à ramener la paix comme on le souhaite depuis des années. Mais là, vous allez voir que c'est déjà qu'on envoie en mission. Et quand on envoie déjà en mission, il faut vraiment donner des moyens. Et quand je parle de moyens, il y a plusieurs variétés de moyens. Des moyens techniques au niveau de la formation, des moyens roulants. D'abord, tous ceux dont, et comment on sait là, on pourrait avoir besoin pour atteindre l'objectif visé par l'État en leur confiant cette zone-là. Là, vous allez voir que les ADF, c'est des miliciens qui sont vraiment armés, qui ont vraiment la technique. Et je me demande même comment est-ce que cela parvient vraiment à trouver vraiment des moyens de guerre de ce calibre-là. Donc déjà, il faudrait que, d'abord, vous avez parlé de la coopération de la population. Ça, c'est nécessaire. Et là, maintenant aussi, étant donné que le camp d'Afat est informé, vous allez constater qu'ils vont nécessairement changer de stratégie. Chaque stratégie, c'est comment faire pour déjouer le plan quand même de ces généraux-là qu'on a mis à la tête de ces localités-là. Donc, c'est à l'État maintenant de voir, dans la mesure du possible, qu'est-ce qu'il faudrait, comment est-ce qu'il faut aider ceux-là, quelle formation leur donner et quelle stratégie mettre en place en commun accord avec la population pour parvenir quand même à arrêter ces désordres-là qui s'observent depuis quelques années quand même à l'est du Congo. Moi, c'est un peu ce que je pense quand même.
Grand merci Baudelaire Hachou pour vos suggestions, votre point de vue sur cette situation. Vous dites en effet qu'il faut donner des moyens à l'armée, mais vous dites que une fois informées, les milices risquent de changer de stratégie d'attaque. Donc merci Baudelaire, à très bientôt. On a Idriss Sangba Ouattara, top fan, qui est en Côte d'Ivoire. Idriss, comment allez-vous?
Oui, ça va.
Alors vous, Idriss, vous pensez que la population doit se rendre indispensable et collaborer étroitement avec l'armée. Vous allez nous dire de quelle manière, Idriss, on vous écoute.
Voilà, effectivement, pour lutter contre cette terreur là-bas, il faut que la population soit au moins indispensable. Collaborer directement et étroitement avec l'armée, parce que pour avoir une armée qui a vraiment les informations, il faut la population. Si l'armée se fait peur par la population, je me dis que personne n'informera la population. Puisque, comme je le dis, c'est comme une guerre asymétrique, personne ne voit l'ennemi venir. Voilà, donc il faut vraiment mettre la population en confiance et tout le monde a droit à y participer vraiment pour qu'il y ait au moins un semblant de paix dans ces deux régions du Congo qui souffrent depuis plusieurs décennies. Sérieusement. J'ajoute aussi, je vois des personnes, soit peut-être entre guillemets, des seuls ou des personnalités critiquer les deux personnes, deux généraux de même. Attendez, ce sont des Congolais après tout. Peut-être dans le passé qu'ils ont pu faire des erreurs. Si on pense qu'ils sont capables de nous ramener à la paix, alors il faut vraiment les soutenir. Alors ne tuons pas, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Si on leur a donné un mois, si dans un mois qu'on voit vraiment ce qu'on veut n'a pas été ça, bon, on verra maintenant, on pourra critiquer. Au moins, ils sont nommés, on les attend sur un travail. Si le travail est fait, c'est en fonction du boulot qu'on peut maintenant les critiquer. Mais ne regardons pas ce passé, entre parenthèses, pour les juger. Sinon, pour le moment, le Congo a besoin de tous ses filles et fils de l'écurie, de choses.
Un grand merci Idriss, Idriss Sangba Ouattara. Alors pour rebondir sur ce que Idriss vient de dire, il est vrai que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a décidé de faire confiance à deux anciens rebelles pour diriger ces deux provinces. Le gouverneur militaire du Nord Kivu et le général Luboya Nkashama, ancien chef de la première zone de défense qui comprend notamment Kinshasa. Il était également le commandant de la 13e région militaire de l'Équateur. Alors cet officier originaire de la région du Kasaï est un ancien membre de la rébellion du RCD Goma, proche du Rwanda, qui administrait autrefois cette province, ce qui a déjà été signalé d'ailleurs par certaines organisations de la société civile. Et le général Luboya Nkashama est, comme prévu, assisté d'un policier qui est le commissaire divisionnaire à Longa, Boni Benjamin. On pourra parler de l'autre gouverneur militaire après avoir... on a quelqu'un au Soudan du Sud. Comment allez-vous? Soudan du Sud, à Juba. C'est Aïki Mokili Etsron, c'est ça?
Oui, ça va. Aïki Mokili David.
Formidable, c'est vraiment un plaisir de vous entendre à partir de Juba, parce que c'est pas souvent. Donc on espère que vous reviendrez participer à nos émissions et on vous écoute donc sur la question de la République démocratique du Congo, l'est du pays, donc la violence armée. À vous la parole.
Exactement. Oui, madame, en tout cas, merci de m'avoir accordé la parole concernant, en tout cas, la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, entre Nord Kivu et l'Ituri, spécifiquement, concernant l'adhésion de certains chefs de l'État ex-rebelles qui sont, en tout cas, choisis par le président de la République à être, en tout cas, à représenter à l'est et puis à dans la partie nord aussi vous. Et ma question est de savoir, en tout cas, si c'est une bonne idée et une bonne initiative, c'est où on peut avoir en tout cas une coïncidence selon son rapport qu'il a dressé, en tout cas choisi, et ces hommes à être à la tête, soit à représenter l'est du pays. Ça peut avoir une bonne initiative à ceux qui sont là dans la bourse, dans les activités des opérations, des groupes rebelles qui opèrent dans l'est de la République en général. En tout cas, avoir une avis, en tout cas, si c'est comme ça, faisons en tout cas quitter nos exercices de la rébellion et puis essayer d'en tout cas de joindre. Et puis, ma question est ça. Si ça n'est pas sûr, entre les plans et puis les plans de guerre en tout cas, qui est dressé par l'ex-chef de la MONUSCO de la République démocratique de la Sud-Unie au Congo, et puis les plans dressés par lui. Et puis ce qui n'est pas là spécifiquement concernant ce qui se passe à l'est de la République. Deuxièmement aussi, il y a aussi la révolte qui est organisée par les populations sur le terrain, de part et d'autre de Beni, à Nord Kivu, et puis côté d'Aru, entre la voie de la route entre Aru et Bunia, et Djougou, et Mombasa, et puis à Bounia exactement. Il y a des actes qui se passent après cela. Est-ce que ces hommes qui sont choisis par le président, est-ce qu'ils peuvent porter en tout cas un remède concret à l'insécurité totale qui se passe en République démocratique?
Alors, merci beaucoup, Ayiki. Oui, Ayiki, pour votre questionnement et donc votre réflexion. Je rappelle, à partir de Juba, au Soudan du Sud, on a parlé tout à l'heure du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Luboya Nkashama, et il y a donc l'autre gouverneur militaire qui a été nommé en Ituri. C'est également un ancien rebelle issu de la rébellion du MLC. Le général Constant Dimakong était commandant de la troisième zone de défense qui couvre les deux Kivu, Maniema et Tchopo. Et il était auparavant chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Et son vice-gouverneur est le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo, qui était lui chargé de coordonner le groupe technique pour la sécurisation des élections. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne ? Ah oui, nous avons Marie-Paul Awa qui est à Kisangani. Comment allez-vous?
Oui, je vais bien, merci madame. Et vous-même?
Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Quelle est votre réflexion donc sur la situation actuelle dans l'est de la RDC, notamment avec l'état de siège?
Oui, madame, étant donné que les institutions ne valent que ce qui valent leurs alimentaires, à mon avis, il est difficile et incertain que tout ce que les hommes sont en train de faire, toutes les mobilisations, ne produisent des effets escomptés. Et pour la simple bonne raison que dans un pays où il y a l'absence de gouvernance, dans un pays où il n'y a pas la traçabilité, il est tellement difficile que dans ces pays-là, que les engagements que les États prennent ou les animateurs prennent soient concrétisés. Alors, le temps de siège qui vient d'être décrété en République démocratique du Congo, je pense que c'est d'abord une voie constitutionnelle qui permet au chef de l'État, justement, lorsqu'il y a une situation d'insécurité, qu'il mette en place un état de siège. Mais il y a des préalables qu'il faut, à mon avis, que l'État congolais doit mettre au rendez-vous. Le premier préalable, c'est que l'État congolais doit d'abord lutter contre le détournement des fonds alloués aux militaires. Parce que vous savez, les militaires de notre pays souffrent. Et l'argent que l'État est en train de débourser sont répartis par les hiérarchies, ce qui fait que beaucoup plus de militaires soient découragés. En deuxième lieu, on doit mettre en place un mécanisme de diligence aussi bien pour que il y a la réforme au sein des systèmes de sécurité et de défense de la RDC. Madame, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu. L'armée congolaise est infiltrée à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont des généraux, des anciens rebelles, comme vous avez d'ailleurs bien dit, qui sont devenus des combattants. Je pense qu'on doit faire des réformes pour ne pas faire la plume à tous les rebelles, à tous ceux-là qui ont versé ça. En troisième lieu, on doit favoriser justement le partenariat entre les grandes puissances. Aujourd'hui, il y a des grandes puissances qui sont reconnues mondialement sur le plan militaire, notamment les États-Unis, la France et les autres. Il faut que la RDC arrive à favoriser ces partenariats-là pour que les forces armées congolaises soient aussi au rendez-vous. En troisième lieu, on doit étreindre formellement l'exploitation des minerais dans ces zones à haut risque. Parce que tout ce qui est autour de ces guerres, autour de ces rébellions que nous connaissons dans notre pays, c'est aussi l'exploitation des ressources minières. On doit interdire cette exploitation. En quatrième lieu, on doit sécuriser les forces loyales, c'est-à-dire non militaires, on doit les sécuriser. Pour qu'il n'y ait pas de mutation entre les frontières, surtout nous savons nos frontières sont poroses. La porosité de nos frontières font même qu'il y ait des mutations de part et d'autre, ce qui fera que beaucoup d'autres militaires risqueront d'être, beaucoup d'autres rebelles risqueront justement de se faire évader. En cinquième lieu, on doit louer des fonds en hommes, en logistique, et pourquoi pas aussi des fonds financiers, parce que ce sont ces fonds-là. Et vous savez, cette région-là, les provinces concernées par cet état de siège, ce sont vastes provinces.